Avec une fourchette, des baguettes et même avec les doigts, on va déguster sur France Inter.
Elle vous a fait cauchemarder, hein, cette rhubarbe, c'est ça, Lyra?
Donc là, le martyr, c'est un peu exagéré. Je vais avoir des difficultés avec ma mère, là.
Bah oui,
j'espère qu'elle nous écoute pas.
Incident diplomatique dans la famille maçon.
C'est ça. La rhubarbe, ou rabarber, comme on dit en suédois.
Là, comment?
Rabarber.
Ça fait un peu barbare.
Ça fait un peu
d'ailleurs,
barbare.
C'est l'étymologie de rhubarbe,
oui,
je crois.
Oui,
tige barbare.
Tige barbare.
Et surtout, on dirait un peu la racine du mot rébarbatif, non?
Ah, c'est rhubarbatif, très bien.
Rhubarbatif. Ouais. Mais après vérification, le mot rébarbatif vient du mot rebarber, qui veut dire faire face en vieux français.
Pas mal.
Alors, la rhubarbe en compote, c'est justement le dessert auquel j'ai dû faire face toute mon enfance et mon adolescence. À partir du mois d'avril, à peu près, je dirais. Voilà, toute ma jeunesse, en quelque
Vous
sorte.
Vous avez été nourrie à la rhubarbe.
Et donc, ma mère, effectivement, étant suédoise, la rhubarbe poussant à peu près partout dans les potagers, les jardins, bah, comme dans votre enfance, Antoine, et comme vous, Kéda, en Écosse.
Ah, donc il n'y a pas que les pays anglo-saxons
qui
sont
accros. Non, bien sûr, les pays scandinaves aussi. Le climat est propice et sont effectivement des terroirs ou des territoires où tout le monde a ça au fond du jardin. Donc, il était évident que l'on prépare une confiture, même pas tellement confiture, plutôt une compote. Évidemment, ma mère en faisait des kilos parce qu'on peut comprendre, je pense qu'elle l'épluchait beaucoup. Et que cette année de l'épluchage, on préfère la subir en une fois et faire de gros volumes que
ah oui,
devoir la faire semaine
donc
après semaine.
Donc c'était 15 jours de rhubarbe.
Voilà, donc elle préparait de la compote de rhubarbe qu'elle congelait et à laquelle on avait le droit jusqu'à voilà,
jusqu'au 31 décembre.
On n'était jamais
c'est la bûche
en...
de Noël à la rhubarbe.
Il n'y avait jamais de pénurie de rhubarbe chez nous. Voilà. Alors il ne faut pas se méprendre, j'adore la rhubarbe, qui a pour moi le goût de l'enfance et le goût de la Suède où je ne vivais pas. Parfois, on avait le droit à un petit grain de folie dans la compote de rhubarbe de ma mère, qui la faisait à la casserole et non pas au four. Elle y jetait une poignée de fraises, non pas à la fin de la cuisson, mais même quand la compote était prête, mais qu'elle était encore très chaude, elle y jetait comme ça une poignée de fraises. Alors François-Régis, quand vous m'avez demandé de pencher sur le sujet, eh ben, je me suis ruée sur la presse culinaire suédoise et les quelques livres de recettes que je pouvais avoir à la maison. Première difficulté, trouver de la rhubarbe.
Oui.
Alors d'abord, j'ai fait le tour des moyennes surfaces et des supermarchés à côté de la maison.
Oui.
Rien du tout. Chou blanc. Heureusement, sur le coup de 14h hier, je suis tombée sur un étal bio d'un maraîcher qui était en remballage tardif. Et là, j'ai pu lui acheter quelques tiges un petit peu racornies, je dois dire. J'imagine que la tige racornie, c'est un peu le test qui permettrait de dire qu'on ne doit pas acheter cette rhubarbe, voilà. En principe.
Voilà. Vous vous souvenez d'ailleurs, par parenthèse, Elvira, le prix au kilo de la rhubarbe sur un étal parisien?
Non, je pense que vous allez m'aider parce que je ne me souviens plus très
c'est
bien.
C'est quoi la fourchette d'un prix raisonnable à Paris et en région?
Ben disons, je dirais en région, ce serait plutôt 2 euros, à 3 euros.
Mais
Paris,
le quadruple.
Je ouais, pense qu'à Paris,
5 euros,
c'est...
Je pense,
oui,
5
oui,
moi je l'ai vu à 5 euros.
Ça me revient, c'était 5 euros
voilà,
quelques.
Donc on peut parler du simple au double. Hein.
Voilà, après ça dépend des moments. Quand elle est précoce, au mois d'avril, elle est très très chère. Et au mois de mai-juin, évidemment que les prix baissent.
Sachant qu'un kilo de rhubarbe, ça doit faire quoi? Quelques tiges, en fait, Kedablak
Un kilo, c'est... Non, c'est peut-être 12. Enfin, ça dépend.
Ah oui, un peu plus. Hein,
ça dépend des variétés.
Non, c'est sûr que si on prend cette énorme ouais, variété...
Celle-ci, ouais. Elle fait la Goliath, donc là, 300 grammes à 500 grammes par tige, voire ouais. Parfois un kilo.
Là, c'est carrément un gourdin que vous avez, effectivement. Ouais.
Et la Valentine, c'est plutôt du 50 grammes, ouais. 100 grammes la tige.
La tige, d'accord. Voilà. Elvira.
Donc le répertoire sucré autour de la rhubarbe en Suède est assez varié.
Oui.
J'ai eu l'embarras du choix entre la rhubarbetårta, qui peut se traduire par espèce de tourte, tarte à la rhubarbe, qui en général est nappée d'une crème quelconque.
La rhubarbetårta.
Rhubarbetårta. Le rhubarber smoothie, voilà, ça va sans dire. La rhubarbe pie, qui est un genre de, qui s'appelle pie, mais qui est en fait un genre de crumble.
Oui.
Ou le rhubarbe korka. Korka, ça veut dire gâteau.
Ah, je me souviens, korka.
Voilà, comme mieux que peppa korka. Je vous ai
exactement.
Déjà servi, voilà.
Voilà.
Exactement. Vous commencez à maîtriser, c'est bien. Et c'est un genre de 4 quarts à la rhubarbe.
C'est celui que vous avez apporté.
Voilà, exactement.
Qui est super bon.
Le principe est très simple. On découpe la rhubarbe en tronçons.
Oui.
Que l'on réserve. Mm-hmm. On fait un mélange sucre-beurre dans le fond d'un moule à manquer. Mm-hmm. Qu'on passe un petit peu au four. Ensuite, on prépare l'appareil de ce rhubarbe korka. Et l'appareil se compose de beurre, de sucre roux, de cassonade,
oui,
de 3 œufs, de farine, d'un peu de lait. On met toujours un peu de lait dans les gâteaux scandinaves. De vanille, si on a, un peu de levure chimique. On mélange ces ingrédients. On dispose les dés de rhubarbe dans le fond du moule à manquer. Alors moi, j'ai pris une liberté avec la recette qui n'était pas forcément très concluante.
Ça m'aurait
étonné. Oui, mais elle ne m'inspirait pas tout à fait confiance. Donc je me suis dit... Les dés de rhubarbe vont être trop durs, donc je vais quand même les faire revenir un tout petit peu dans le caramel. Résultat des courses, ils sont un peu trop mous.
Ah non, moi j'ai
donc vraiment,
bon.
On les réserve sans du tout les toucher avant de commencer la cuisson.
D'accord.
Donc on a cette espèce de petit caramel au fond du moule.
Mm-hmm.
On y dispose les 500 grammes de rhubarbe épluchée pelée, 500 grammes. Chez moi, c'était, je pense, ça m'a fait 5-6 tiges.
En tronçon de 2 cm.
2 cm à peu près.
D'accord, 5-6
tiges. On nappe de cet appareil que je viens de vous décrire et on enfourne pour 35 minutes.
Mais c'est super bien.
Alors, je craignais un peu qu'on soit dans quelque chose qui soit de l'ordre du 4 quarts, du flan ou du clafoutis, qui n'a rien de suédois. On est un peu dans un hybride 4 quarts clafoutis, voilà.
Mais moi, je trouve ça vraiment épatant. Et il y a par contre, très franchement, la texture et le goût d'un 4 quarts aussi.
Oui, c'est ça.
Non, je trouve ça délicieux.
Vous validez?
Bon, bah. Vous aimez ou pas?
C'est un upside down cake, oui.
C'est exactement ça.
À quoi?
Un upside down cake. Parce que
gâteau renversé.
On le retourne.
Voilà, c'est ça. Ah oui, évidemment, on le retourne pour le service pour que la rhubarbe soit face dessus. À l'air, entre guillemets.
C'est ça. Kedablak, vous aviez la parole. Merci beaucoup. Elvira, d'ailleurs, la recette de votre maman se retrouve sur notre site
Bien
internet,
évidemment.
J'imagine. Vous nous redonnez le nom juste?
Rhubarbekaka.
Rhubarbekaka.